œil.
Dans cette édition, vous entendrez la procureure de la République sur l'enquête en cours après le drame de Afa Haïti. On parlera aussi de cette suspension des greffes à l'hôpital. Et pour terminer, ce grand concert de Noël demain au Conservatoire. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, pour commencer, on reparle du drame de Afa Haïti qui fait toujours l'objet d'une enquête.
Oui, le parquet l'avait ouverte dès le 26 novembre, quelques heures après l'éboulement qui a fait 8 victimes dans le quartier Tehonu. Une enquête pour homicide involontaire qui doit déterminer les circonstances exactes du drame. Mais il faudra du temps avant de pouvoir dégager d'éventuelles responsabilités, comme l'explique la procureure de la République, Solène Bellaouar.
La configuration des lieux et les premiers témoignages recueillis sur place ont immédiatement impliqué qu'il fallait faire des vérifications sur les autorisations d'urbanisme, les constructions, les travaux qui ont pu être effectués dans la zone. Donc l'enquête, elle doit s'attacher à déterminer ces circonstances. Pour l'instant, le site est encore assez peu accessible aux enquêteurs de la brigade de recherche. On se concentre sur les témoignages. Les directions du pays ont également été sollicitées pour fournir un certain nombre de renseignements. On est encore dans le temps de l'enquête de flagrance, mais c'est une enquête qui vraisemblablement s'inscrira dans le temps.
Voilà, du temps et même du temps long, surtout que comme elle vient de le dire, la zone est toujours interdite d'accès pour raison de sécurité. Les enquêteurs ne peuvent donc pas y accéder et le parquet se pose la question de l'ouverture d'une instruction sur ce dossier.
Il y a quand même 8 victimes, des familles endeuillées. Ça peut être une option, effectivement, d'ouvrir une information judiciaire. C'est une question qui se posera dans les prochains jours, probablement. Si une instruction est ouverte et confiée à un juge d'instruction, les familles des victimes pourront effectivement se manifester pour se constituer partie civile, avoir accès au dossier, faire un certain nombre de demandes si elles le souhaitent.
Solène Bellaouar, procureure de la République de Papeete, qui était au micro de Charlie René, elle rappelle que c'est la section de recherche de la gendarmerie qui est en charge de cette enquête.
On reste dans l'actualité judiciaire avec cette vaste opération anti-drogue. Plus de 300 gendarmes vont être mobilisés.
Le haut commissaire Alexandre Rochat a annoncé hier le lancement d'une grande campagne de contrôle dès cette semaine. 320 gendarmes vont être effectivement mobilisés sur les routes mais aussi dans les aéroports, ici et dans les îles. Une opération qui s'inscrit dans son plan de lutte anti-stupéfiants mené sur plusieurs fronts. Hier après-midi, il avait notamment réuni les Tavana de Tahiti et Moorea.
L'objectif, c'est de développer avec eux tous les outils qui sont à notre disposition pour lutter contre la consommation et contre le trafic de stupéfiants. Ça va des outils administratifs, la fermeture administrative d'un établissement comme celle qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, l'interdiction de paraître sur des lieux de deal qu'on va mettre en place sous peu, et des outils de contrôle. 320 gendarmes sont mobilisés toute la semaine sur des lieux de contrôle des flux, donc c'est-à-dire sur les axes routiers, des flux des contrôles dans les aéroports des îles.
Et la lutte passe aussi par le volet judiciaire avec les saisies de biens acquis grâce au trafic. Une stratégie qui fonctionne, selon Alexandre Rochat.
Concrètement, les délinquants, et notamment de la lutte contre les stupéfiants, l'objectif c'est de les empêcher de continuer à le faire. Donc ça, c'est les contrôles qu'on met en place et c'est les actions qui finissent par la détention. Mais ce qui fait mal, c'est quand on leur confisque les biens qu'ils ont pu acquérir ou l'argent qu'ils ont pu générer de façon illégale. Et donc en confisquant, en vendant les biens qu'ils ont pu avoir l'acquisition, ça leur permet de ne plus avoir le bénéfice de l'argent illégal.
Voilà, des biens confisqués qui sont ensuite vendus.
Et d'ailleurs, une première vente aux enchères entièrement dédiée à ces biens saisis et confisqués est organisée demain.
Et ça se passera dans les locaux d'AGM Remorquage à partir de 8h. À vendre des jet-skis, des voitures, des bateaux, des montres haut de gamme. Une liste qui correspond aux biens confisqués dans l'affaire du réseau Dice à Moorea. Rien n'a été officiellement précisé, juste que ces 13 biens ont été saisis dans des procédures judiciaires. Ce sera la première vente locale organisée spécifiquement pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une agence nationale chargée de gérer les avoirs criminels, appelée aussi la GRASC.
Un mois et demi après avoir obtenu le label hôpital ambassadeur du don d'organes, la greffe est en panne à l'hôpital.
L'annonce n'est pas encore officielle, elle ne devrait être actée que la semaine prochaine, mais elle circule déjà en interne et elle provoque beaucoup de dépit chez les soignants. L'hôpital va suspendre effectivement temporairement son activité de greffe lancée en 2013. En cause, le départ non programmé d'un médecin néphrologue, la seule du CHPF, qui soit qualifiée en matière de transplantation. Sans elle, les greffes ne peuvent tout simplement pas avoir lieu. il ne s'agit pas seulement de trouver un remplaçant en urgence. La direction annonce que cette suspension va durer un peu plus de 6 mois jusqu'en juillet, le temps de réorganiser l'ensemble du service de néphrologie, Charles Irénée.
Oui, c'est la décision qui a été prise par la directrice Anitéri Paya, qui a constaté lors de son arrivée aux manettes du centre hospitalier voilà un an que ce service fonctionnait de façon dégradée, dangereuse même. Le problème vient d'un manque de personnel, le cas de cet unique médecin spécialisé dans la transplantation le montre bien, mais il vient aussi des locaux du Taonnais où trop peu de place a été prévue dès l'origine pour les dialyses, une des activités centrales du service. La conséquence, c'est que les patients doivent se relayer jusqu'à très tard dans la nuit sur les mêmes postes de dialyse, ce qui pèse sur les malades comme sur les soignants. La direction attribue d'ailleurs le fort turnover du service et notamment le départ de cette néphrologue dans quelques jours à un phénomène d'épuisement constant des équipes.
Mais alors Charlie, pourquoi l'hôpital n'a-t-il pas lancé les recrutements plus tôt puisque la situation était connue ?
Eh bien, la direction assure avoir lancé les grandes manœuvres voilà plusieurs mois en déposant le permis de construire d'une extension du service de néphrologie et hémodialyse qui doit permettre, d'ici le deuxième semestre 2026, de retrouver un fonctionnement normal. Des recrutements ont aussi été lancés, mais sur des postes aussi spécialisés, ils prennent du temps. On attend de nouveaux médecins en février, en avril ou en mai, et d'ici là, des accords devraient être signés avec la Per Apurade ou l'entreprise Isis pour que des néphrologues du privé, qui sont souvent des anciens de l'hôpital, viennent en renfort et en formation. L'idée, c'est donc bien de suspendre l'activité de greffe pendant 6 mois pour soulager le service et lui permettre de repartir du bon pied.
Une nouvelle plutôt mal prise par une partie du personnel qui voit dans cette situation un manque d'anticipation de la direction sur les ressources humaines qui touchent d'autres services. On s'inquiète aussi pour la dynamique lancée ces derniers mois autour de la promotion du don d'organes et on s'inquiète surtout pour les patients. Toutes les transplantations devront être faites dans l'Hexagone. Certains devront même y aller pour attendre leur opération, alors que 10 à 15 personnes par an pouvaient bénéficier jusque-là d'une greffe localement.
Santé toujours avec la campagne contre la filariose à Moréa qui est prolongée.
La campagne de prise observée directe du traitement préventif contre la filariose, la POD, n'a pas eu les résultats escomptés. Seulement la moitié de la population y a participé pendant les 2 semaines et l'Organisation mondiale de la santé fixe à 65% le seuil recommandé pour combattre la maladie. La campagne a donc été prolongée d'une semaine jusqu'à demain. Si vous faites partie de ceux qui ne se sont pas encore manifestés, vous pouvez encore le faire à l'hôpital de Afarea et tout, dans les 3 pharmacies de l'île et auprès des médecins et infirmiers libéraux. Des agents de la direction de la santé vont également faire du porte-à-porte dans les quartiers les moins bien couverts. La direction de la santé qui rappelle que n'importe qui peut être porteur du parasite responsable de la filariose, parfois sans montrer aucun symptôme. Prendre le traitement permet de stopper la transmission.
On va au tribunal du côté des assises.
Où le procès d'un homme se déroule depuis lundi. L'affaire remonte à janvier 2023. Une querelle de voisinage qui s'est terminée en bain de sang. Régis, 48 ans, est décédé des suites de 13 coups de couteau. L'accusé Moete Raori, 45 ans au moment des faits, est jugé pour meurtre. L'état psychique de l'accusé était au cœur des débats hier. Depuis 2015, il présente des troubles bipolaires. Il a déjà été interné plusieurs fois en psychiatrie. Les experts ne sont pas tous d'accord sur son cas et l'avocat général estime, lui, que l'accusé avait volontairement arrêté son traitement pour justement passer à l'acte. Une préméditation qui annulerait l'irresponsabilité pénale ou une réduction de peine. Les débats se poursuivent aujourd'hui. Le verdict est attendu pour la fin de journée. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité et les comptes rendus de ces 2 journées d'audience sont à lire sur notre site radio1.pf.
Jean-Christophe Bouissou accuse le pays de fragiliser la cohérence de l'action publique.
L'ancien ministre de l'Aménagement est très fâché de cette délibération qui doit être étudiée aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Le pays a décidé de se désengager de l'agence d'aménagement au POA, une agence créée par Jean-Christophe Bouissou en même temps que la mise en place des schémas d'aménagement généraux du pays, les fameux SAGE, et qui était la boîte à outils nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques. Au POA n'est pas une option politique mais découle d'un cadre juridique supérieur. Explique l'ancien ministre. Jean-Christophe Bouissou conclut sa lettre ouverte en souhaitant que le pays réexamine sa décision.
Dans l'actualité aussi ce midi, cette polémique nationale qui a eu écho jusqu'en Polynésie ces derniers jours.
Philippe Petitqueux, maire d'une commune d'Occitanie de moins de 500 habitants, n'a pas donné de nouvelles depuis 5 mois. Voilà ce qu'on pouvait lire dans les journaux nationaux en France. Et l'histoire a trouvé un écho jusqu'à Tahiti, car où le maire a-t-il été retrouvé ? Eh bien à Moréa. France Info avait réussi à contacter l'élu. Il lui était surtout reproché de ne pas avoir démissionné avant son départ et d'avoir continué à toucher son indemnité de maire d'environ 120 000 francs par mois. Philippe Petitqueux a fini par annoncer aujourd'hui qu'il démissionnait et raconte au passage dans les pages du journal Le Parisien sa version de l'histoire, celle d'une fin de mandature difficile marquée par des démissions et de violentes oppositions au sein du conseil municipal. Un climat intenable. Sa petite commune, après avoir échoué à voter un budget l'année passée, avait même été placée sous tutelle de l'État en juin 2024. Le désormais ex-maire explique que son départ pour la Polynésie n'était pas précipité, mais a plutôt été exploité à des fins politiques. Depuis Moorea, il dit avoir touché ses indemnités jusqu'en septembre, c'est-à-dire finalement la période durant laquelle il a effectivement continué à travailler.
Et puis J-2 avant Noël et déjà tout le monde se met dans l'ambiance.
Alors pas J-2, Sanchez. Voilà. Ah oui, voilà, les cadeaux de Noël, c'est pas pour tout de suite. On vous parlait de la chanson de Noël sortie par Tahiti et Quartz School avec l'hôtel Le Brando hier. Last Christmas de George Michael, revisité et traduite en Reo Tahiti. Noera no te here, que vous entendrez sûrement beaucoup d'ici le 25 décembre. Et c'est aussi le conservatoire qui va donner son spectacle de Noël au Grand Auditorium à Tipperary. Le chœur des enfants va interpréter les plus beaux chants de Noël. Ils seront dirigés par Nathalie Villeraignier et accompagnés par les jeunes clarinettistes, violonistes et pianistes. C'est donc vendredi à partir de 18h au conservatoire. Pour Noël, Sanchez, il faut attendre encore
un peu. D'accord.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur Radio.